les jardinières.
Oh, bonjour.
C'est bruyant voilà. Chez vous ce matin.
Non, mais c'était pas chez moi, donc je ne sais pas. Bref, c'est parti pour une nouvelle session jardinage et pas tuyauterie. Le soleil brille souvent, mais les températures sont fraîches, en particulier la nuit et le matin. Si les tâches dans le potager sont plutôt à l'arrêt en ce moment, on peut planifier le futur et bien sûr s'occuper de nos plantes d'intérieur. Avant de parler jardinage, on se dit bonjour comme il faut. Bonjour à tous, bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour les tuyaux et bonjour également à notre jardinier Fabrice Rondet. Lui, il a bravé le froid, le brouillard, la nuit et la tuyauterie pour nous rejoindre et répondre à votre question. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Fabrice Rondet, vous êtes le créateur de Fabrice Rondet SARL à Porrentruy et vous êtes prêt à répondre à toutes les questions de nos auditeurs. Ça se passe jusqu'à 8h. Et vous, chers auditeurs, vous avez trois moyens pour nous atteindre. Par téléphone, ça y est, le standard est ouvert, 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Si vous êtes plus timide, vous avez l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet. Vous allez sous l'onglet émission, question ou jardinière. Et en plus, il y a une nouveauté.
Oui, via le formulaire, vous avez la possibilité d'ajouter une image à votre question, histoire d'aider Fabrice Rondet à répondre à votre demande. Soyez les bienvenus chez les jardinières. Ça commence maintenant.
7h, 8h, les jardinières.
Fabrice, nous sommes en train de vivre un hiver plutôt inhabituel. Certes, il fait froid, mais on se croirait presque au printemps avec le soleil et les températures qui grimpent durant la journée. Alors, quelles tâches peut-on effectuer au jardin en ce moment ?
Alors, pour tout ce qui est du jardin, maintenant, c'est vrai qu'on est encore un petit peu dans une période lente au niveau des travaux, mais on a quand même deux, trois petites choses qu'on peut commencer de faire avec pas mal de sérieux pour anticiper, parce que la nature essaye de se réveiller un petit peu. On voit les bourgeons qui gonflent, on voit des noisetiers qui ont commencé de bien fleurir ce froid, un petit peu calmer les choses. Mais après, on peut commencer à penser notamment à tout ce qui est taille ornementale qu'on n'a pas encore effectué, tout ce qui est taille des petits fruits, la taille de nos vignes, de nos fruitiers. Et puis après, on a toujours un œil sur le potager aussi pour les légumes tels que le poireau, les choux de Bruxelles, certaines racines qu'on aurait laissées encore en terre, comme des céleri-pommes ou des, peut-être des racines rouges, des choses comme ça.
Ou des topinambours.
Des pots de topinambours également.
Et moi je me posais la question, parce que ça fait quand même quelques nuits où il fait beaucoup plus froid que tous ces derniers temps. Est-ce que justement toutes ces fleurs et toutes ces plantes qui étaient en bourgeon, est-ce que ça ne va pas leur faire plus de mal qu'autre chose ?
Non, au contraire, ça va calmer un petit peu le jeu. Et puis ça va permettre aussi aux choses de se mettre un petit peu en stand-by pour pas qu'elles démarrent trop tôt. Parce qu'on a vu l'année passée, par exemple, qu'on a eu un retour des froids avec de la neige qui arrivait tardivement. C'était sur fin avril, début mai, ce qui a même annulé nos productions fruitières. Donc le fait de calmer le jeu un petit peu maintenant peut aussi nous préserver par rapport à un retour du froid un petit peu plus tard.
Merci beaucoup Fabrice, vous restez évidemment avec nous et jusqu'à 8h. Et vous le savez, les jardinières, c'est votre émission. On attend donc vos questions par téléphone, 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question, vous nous l'envoyez au 939 et via le formulaire sur nos sites web qui est à votre disposition sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et vous avez même la possibilité de nous envoyer vos photos.
Le temps d'une pause musicale, on se retrouve juste après pour découvrir vos questions.
Les jardinières.
Les jardinières qui sont là pour vous jusqu'à 8h, on répond à vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. On va se lancer dans vos questions avec cette question de Morissette qui avait planté des tomates l'année dernière et elle a gardé des graines qu'elle a soigneusement fait sécher dans l'idée de les replanter au printemps. Mais l'été passé, ses plants de tomates étaient atteints de mildiou. Elle aimerait savoir si en utilisant les graines de ses plantes malades, les nouvelles seront malades aussi. Fabrice, est-ce que vous pouvez aider Morissette ?
Alors, ce qui serait important de savoir aussi, c'est peut-être quelle était la force de l'attaque sur les végétaux. Après, si c'était une petite attaque et puis qu'elle l'a contrôlée tout au long de l'année du fait qu'elle a pu apporter sa plante en pleine production, je pense qu'elle a aussi choisi les plus belles tomates pour sélectionner les graines. Et puis, par rapport à ça, en faisant comme ça, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis pour redémarrer un nouveau semis à partir de ces tomates qu'elle a sélectionnées. Après, si vraiment il y avait un souci qui devait arriver juste au moment de la levée des plantules au durpiquage. À ce moment-là, elle peut éventuellement faire un traitement pour enrayer ça, mais je pense que ça devrait poser aucun problème.
Mais justement, c'est peut-être une question bête, mais le mildiou, à quoi ça ressemble?
Mais c'est toutes des petites ponctuations qu'on va retrouver sur les feuillages, en fait. Donc après, ça va plutôt passer l'hiver sur les feuilles et sous forme de spores qui peuvent se réveiller. Mais le fruit, s'il est beau, complètement rouge, normalement, on va pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. C'est un petit peu comme des pommes ou n'importe quel fruit qui serait attaqué par une maladie. Le fruit tombé au sol va germer au printemps. C'est pas pour autant que la plante soit contaminée et va mourir.
Merci de cette petite précision. En tout cas, comme ça, tout le monde est au clair. On enchaîne avec peut-être cette seconde question de Tristan qui nous écrit depuis Tavannes. Bonjour, j'ai une orchidée et j'ai remarqué que ses feuilles devenaient molles. Pouvez-vous me dire quel est le problème et comment le résoudre ?
Alors, ça peut être lié en général à deux choses qui sont un excès d'eau ou un manque d'eau. C'est vrai que ça peut paraître assez drôle, mais effectivement, si on arrose trop une plante, on peut avoir ce symptôme aussi de plante avec un feuillage qui se ramollit puis qui a tendance un petit peu à retomber comme ça. Donc, laisser essuyer au niveau de l'arrosage. Ce qui serait bien, c'est de bassiner un petit peu la plante, de vaporiser le feuillage et de laisser un petit peu les choses essuyer avant le produit. Un bassinage des racines. Et après, si par contre le substrat est trop sec, peut-être faire pour qu'il reste un petit peu humide et de repratiquer un bassinage peut-être une fois par semaine. En faisant une fois par semaine comme ça, il devrait pouvoir arriver à corriger cet arrosage.
On a reçu une question juste maintenant pour vous, Fabrice. On parle d'un basilic qui apparemment est...
Pas le serpent, on rassure tout le monde.
...est encore en forme. Et il est à l'intérieur, près d'une fenêtre. Et on aimerait savoir, est-ce que c'est une bonne idée de le conserver comme ça, maintenant, au mois de janvier ?
Alors, on a la possibilité de travailler avec des plantes de ce type-là, comme du persil, la ciboulette, le basilic, où c'est qu'on a des cultures qu'on peut tenir sur le bord de sa fenêtre. Après, c'est un problème de luminosité qu'on peut rencontrer. Donc, après, c'est vrai que si on a une période avec une luminosité assez importante, ça devrait pouvoir le faire, mais on peut quand même avoir des plantes qui jaunissent un petit peu, qui changent un petit peu dans l'intensité du vert, voire qui sèchent un petit peu au niveau des feuillages. Après, ce qu'on peut faire, si on veut optimiser peut-être une culture hivernale comme ça, avec ce type de plante, on a des petites lampes qui existent sur le commerce qui sont exprès pour la photosynthèse, pour le bon développement de ces végétaux, pour après rentabiliser un petit peu ces périodes creuses pour avoir vos plantes tout au long de la saison hivernale.
Et si la plante est un petit peu jaunie pour un basilic, on peut quand même consommer les feuilles ?
Alors oui, mais c'est pas tellement appétissant, c'est pas top au niveau du goût. Donc ouais, c'est peut-être mieux de se rabattre que sur celles qui sont vraiment belles vertes. Et puis après, le fait qu'elles viennent jaunes aussi, c'est un petit peu un manque de lumière qui est lié à une période d'ensoleillement qui est un petit peu plus tristounette, comme on a vu, c'est qu'on a plus de brouillard comme la semaine passée. Donc ça peut très rapidement provoquer ce genre de décoloration.
On espère que toutes vos réponses, Fabrice, auront aidé notre auditeur. Et on enchaîne avec une auditrice qui nous demande si elle peut semer du cresson dans un bac, chez elle donc en intérieur, pour ensuite en faire de la salade. Et si oui, est-ce que vous avez quelques conseils à lui offrir ?
Alors là, on va retomber un petit peu dans le même style de réponse, si ce n'est que la culture sera plus courte, donc on va nous poser moins de problèmes. Donc ce qu'il faut pour le démarrage, c'est d'avoir un substrat assez humide, et puis d'avoir à contrôler ça sur toute la période de germination, et puis la première période de croissance. Et puis après, de tenir ça aussi bien exposé par rapport à une fenêtre. Après, ce qu'il faut se veiller aussi avec ce type de culture, comme on voyait avant avec ce basilic aussi, c'est peut-être éviter les courants d'air. Si on a tendance à aérer, peut-être éviter cette fenêtre-là, se reporter sur une autre fenêtre. Et puis ensuite, on peut avoir, pour éviter des dessèchements, des choses comme ça, vaporiser peut-être avec un petit vaporisateur, bien sûr, un peu d'eau de temps en temps pour tenir un petit peu cette fraîcheur au niveau du feuillage, cette humidité au niveau du feuillage par rapport à l'air ambiant qui est beaucoup plus sec si on pousse un peu les chauffages.
Les jardinières.
Le samedi matin, entre 7h et 8h, nous parlons jardin, potager, plantes d'intérieur ou extérieur. Et vous avez la possibilité de poser vos questions à notre jardinier professionnel. Ce matin, c'est Fabrice Rondet qui répond à vos questions.
À toutes vos questions, sans la moindre exception, des questions que vous pouvez nous poser par téléphone au 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, puis vous nous l'envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet rjb.rtn ou rfj.ch sous l'onglet émission questions jardinières. Vous pouvez joindre une photo de votre plante lors de l'envoi du formulaire.
Vous avez tous les renseignements. Place aux questions. Question Josiane de Areuse nous a envoyé une question. Elle aimerait savoir quand tailler son jasmin et elle vous souhaite une bonne journée, Fabrice.
Alors maintenant, moi j'ai eu l'occasion d'en voir cette semaine qui sont magnifiquement bien en fleurs. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être attendre que cette floraison ait passé pour les tailler. Et puis autrement, ce qu'on peut faire, c'est les tailler peut-être à l'automne, juste avant la période hivernale, ceux qui vont fleurir. Mais autrement, laisser bien fleurir ces jasmins, puis faire dès la fin de la floraison une taille de formation et d'entretien.
Merci Fabrice, vous pouvez faire hein, comme Josiane l'a fait, nous envoyer vos questions via le formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Vous pouvez aussi ajouter une photo.
Et on enchaîne avec une question de Marc qui a planté de l'ail dans son jardin, qu'il a récolté et qu'il stocke dans des caisses de maraîchers en plastique, dont son galta. Mais ces gousses d'ail germent quand même, que peut-il faire pour éviter que cela se produise ?
Alors ça, c'est une réponse qui sera valable pour pas mal de choses, comme les échalotes, les oignons, l'ail et puis les patates aussi. Donc ce qu'il faudrait, c'est les mettre dans des endroits un peu frais et puis à l'abri de la lumière. Donc par ce procédé, on peut retarder le moment de démarrage de ces plantules. Donc autrement, là, c'est le temps un petit peu qui va provoquer ça avec le réchauffement. On a vite une tête de germination qui peut commencer de se mettre en place tout naturellement.
Et si son ail germe, est-ce qu'il peut le replanter au jardin ?
Alors maintenant, du fait qu'on devrait attendre encore quelques semaines, c'est un petit peu vite hein, de travailler la terre, de mettre ça en place. Non, c'est pas top. Autant se contre-germer, les prendre et puis s'en débarrasser aussi, ils commencent à germer, les utiliser.
Merci Fabrice. On va passer à une question de Gwendoline qui nous dit qu'elle vit au centre-ville de Bienne et aimerait faire pousser dans son appartement, elle n'a pas de balcon, du lierre pour ensuite prélever les feuilles pour en faire de la lessive. Est-ce qu'elle peut aller chercher une plante en forêt et la mettre en pot ? Sinon, comment procéder et surtout comment l'entretenir ?
Alors prendre une plante elle-même en forêt et puis la mettre en pot, c'est toujours possible à condition d'avoir une plante peut-être pas trop importante, avec un système racinaire pas trop développé. Maintenant au niveau de la récolte et tout, en pleine terre, c'est un peu délicat, peut-être par rapport au gel, tout ça. Après, un peu plus tard dans la saison, on peut faire du bouturage. C'est une technique qui nous permet par prélèvement de bout de tige et puis de mettre en place dans des petits pots en tenant humide, de reprovoquer un démarrage de système racinaire et d'avoir ses propres plants. On peut faire cela aussi par du marcottage. Là, on va plier une branche où c'est qu'on va recouvrir de terre pour de nouveau émettre un système racinaire. Puis après, on va couper juste avant ce coude qui sera formé pour redémarrer des plantes. Et autrement, la dernière solution qui est assez simple, c'est tout simplement d'en acheter. Mais après, pour faire de la lessive, je ne sais pas quelle quantité de feuilles il lui faut, je ne sais pas quel type de culture il lui faudra. Donc ça aide d'adapter un petit peu ses besoins par rapport à la quantité qu'elle va faire. Donc c'est ça qui va décider aussi du type de multiplication qu'elle va adopter.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières en votre compagnie pendant encore un quart d'heure. Nous avons reçu une question de Marcel de Porrentruy. Elle nous dit « Bonjour, j'ai deux questions, j'ai un pied d'éléphant, est-ce que je peux le raccourcir ? Sur le sommet, il y a une pousse, peut-on la laisser ou est-ce que je peux la couper ? D'avance, je vous remercie, nous avons reçu une photo qui accompagne cette question, donc on peut voir un pied d'éléphant parce que sur la photo.
C'est le principe.
Pour vous le décrire, Fabrice, je vous laisse décrire cette plante, vous êtes plus connaisseur que moi.
Bon, alors ce qu'on peut voir sur cette photo, effectivement, c'est qu'on a la partie renflée de la tige qui est, euh, qui épouse vraiment les feuilles qui retombent très rapidement et puis qui longent tout ça puis qui descendent très bas sur son support. Elle est posée sur un support en bois.
Un peu les cheveux de réponse.
Oui, voilà. Un petit peu comme ça. Et puis, moi, pour la partie aérienne, déjà, la partie supérieure qui est dressée puis qui va retomber par la suite en cascade, je la conserverai parce que c'est ça qui fait tout l'attrait puis la caractéristique un petit peu de cette plante, de mettre ce volume en place sur la partie supérieure de la tige. Et puis après, pour la partie inférieure, où c'est qu'on a les feuilles qui sont vraiment très plaquées, si on peut dire, sur cette tige et le long du pot puis le long du support en bois, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être éliminer un petit peu des feuilles qui sont le plus près possible à la tige, les premiers étages, pour remettre un petit peu de volume sur la partie supérieure. Moi, je ferais peut-être plutôt l'inverse de ce qu'elle propose, c'est que je garderai la partie supérieure pour enlever un petit peu, dégager un petit peu la partie basse de la tige. Et puis après, ça m'a l'air un petit peu, justement, perte d'énergie, cette plante. Je me demande si ça fait longtemps qu'elle l'a rempotée. Si ce n'était pas le cas, moi, je la rempoterais peut-être. Après, on peut amener aussi des fertilisants dans la prochaine période de végétation pour l'aider à reprendre un peu du peps, parce qu'elle me paraît un petit peu fatiguée, malgré qu'on ne voit pas des feuillages jaunes, malgré qu'on ne voit pas des feuilles non plus sèches. Mais j'essaierai un petit peu de rapporter un petit peu du peps à cette plante, si on peut parler comme ça, parce qu'elle me paraît un petit peu fatiguée, pas très énergique dans sa croissance.
Vous avez parlé de couper les feuilles,
les premiers niveaux de feuilles, celles
comment
qui sont...
Comment on les coupe hein?
Bah, tout simplement avec une paire de ciseaux bien propres, bien aiguisées, et puis de les couper le long de la tige, vraiment le premier centimètre, peut-être faire une collerette des premiers centimètres de feuilles pour conserver que les premières qu'on voit qui redémarrent, qui se redressent un petit peu sur le sommet de cette tige. Normalement, c'est ceux-là qui sont posés juste et puis qui font la caractéristique de cette plante.
Merci Fabrice, on espère Marcel avoir répondu à vos questions concernant ce pied d'éléphant. On va continuer Raphaël.
Peut-être justement, avant Mylène, peut-être rappeler comment et faire que peut-être comme Marcel justement qui a utilisé le formulaire sur notre site internet pour nous poser cette question avec cette photo. Vous allez sur nos sites internet, vous sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Vous pouvez également utiliser le téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour être en direct avec nous. Ou sinon, nous envoyez un SMS, vous tapez jardin un espace, votre question, et vous l'envoyez au 939 comme l'a fait cet auditeur ou cette auditrice. Bonjour, j'ai reçu un bac en zinc avec des jonquilles dedans. Elle commence à pousser, on voit les oignons germés et les tiges vertes qui sortent. Et sa question, elle est assez précise. Où dois-je entreposer le bac pour espérer voir des jonquilles et comment m'en occuper? Merci d'avance.
Alors, je pense que ce genre de bac est destiné justement à l'intérieur. Donc, cette personne, comme elle le dit, elle l'a déjà, bien sûr, dedans. Donc, il faut tout simplement suivre cette culture à l'intérieur. Après, ce qu'il faut veiller, c'est arroser pour maintenir ce terrain toujours un petit peu humide, pas trop abondamment. Laisser ressuyer entre deux arrosages, que la partie supérieure de la terre, peut-être le premier centimètre, se dessèche un petit peu, mais que le reste reste humide. Et puis comme ça, à ce niveau-là, on sera juste. Après, au niveau de l'emplacement, le mettre dans un endroit assez éclairé, éviter les courants d'air froid si elle aère assez régulièrement, pas le mettre près d'une source non plus trop chaude, d'un radiateur ou quelque chose comme ça, histoire qu'on ait quelque chose d'un peu tempéré. Elle peut vaporiser un petit peu pour humidifier un petit peu aussi cette plante. Et puis après, on aura une jolie floraison qui va très bientôt, d'après ce qu'elle décrit, se mettre en place.
Est-ce que par la suite, cette personne peut garder les bulbes de ces jonquilles pour les planter en pleine terre l'automne prochain ?
Oui, bien sûr, dès le mois de mars, avril, elle peut imaginer de mettre ça dans un coin de son jardin pour les voir redémarrer après, sur les saisons prochaines.
Ah, elle n'a pas besoin d'attendre l'automne pour les replanter directement après la floraison ?
Oui, parce qu'après son bac, il sera dépourvu de floraison, il n'y aura plus trop d'intérêt d'attrait. Donc c'est là un endroit, elle peut le mettre en place assez facilement. Le tenir dehors dans un petit bac comme ça, si c'est un bac d'un petit contenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut toujours arroser parce qu'il va très vite dessécher cet été avec une exposition au soleil ou avec les chaleurs qu'il va faire. Donc ça pourrait vite créer plus de dégâts. Donc si elle le met en pleine terre, avec le terrain, elle va plus facilement le préserver en pleine terre que dans son bac.
Merci Fabrice pour ces précisions. On va parler d'une serre. Une personne qui a une serre dans son jardin, elle s'est demandé si elle pouvait commencer maintenant les semis à l'intérieur. Elle pensait semer des petits pois et des radis. Bonne ou mauvaise idée ?
Non, il faudrait attendre un petit peu, je pense, parce qu'on devra être sollicité par le biais d'un chauffage d'appoint pour réchauffer cette terre. On a aussi un manque de luminosité d'ensoleillement qui va être favorable au bon développement de ces légumes. Après, je pense qu'il faudrait regarder pour mettre ça en place d'ici fin avril, mi-mai, au tout plus tôt. Moi, je pense qu'il faut attendre un petit peu la période d'ensoleillement et puis où c'est qu'on démarre un jardin d'une façon traditionnelle. C'est vrai qu'on a hâte toujours quand on voit des saisons un petit peu s'avancer, se mettre en place sans neige, sans gel, d'avoir un temps peut-être un petit peu s'améliorer aussi, de vouloir démarrer, mais trop tôt, c'est jamais bon. Après, les périodes la bonne période de démarrage va rattraper ces semi-précoces et puis cela ne donne jamais grand-chose.
Merci beaucoup Fabrice pour vos réponses. Profitez-en de Fabrice, il est encore là quelques minutes dans les jardinières de ce samedi. Et on enchaîne avec une nouvelle question. J'ai récupéré un gros sac d'écorce de pin. Je ne sais pas trop à quoi cela sert, à part à être décoratif. Est-ce qu'il y a d'autres utilités à l'écorce de pin ?
Alors en principe, nous on sert ça principalement pour le paillage de différentes choses comme le copeau, l'écorce de pin maritime, des choses comme ça. On l'utilise principalement pour contrôler l'humidité des sols. Donc on va éviter des arrosages en le mettant au sol sur une épaisseur de 6-8 cm à peu près. Et puis en même temps, on va aussi contrôler le développement des mauvaises herbes. Donc voilà les deux rôles principaux. Et après, le troisième rôle qui s'en dégage, c'est bien sûr la valeur esthétique pour mettre en évidence nos plantations. Après, on peut l'utiliser aussi comme surfaçage pour autour des petits fruits, des choses comme ça aussi pour pouvoir y aller travailler au sec. Donc si on va marcher dans un terrain qui est humide, ça va nous coller aux chaussures. Si on met des copeaux, ben on s'imagine très clairement qu'on va rentrer avec les souliers propres. Donc on peut l'utiliser de toutes ces façons là. Après, je sais pas quelle est la contenance de son sac aussi, je ne sais pas quel type de jardin il a, mais effectivement regarder protection autour des plantes pour contrôler l'humidité, gagner au niveau des arrosages, au niveau de la propreté, et puis pour lui se mettre au propre suivant comment aménager son jardin.
Et justement, pour rebondir sur votre réponse, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut trouver comme ça dans la nature et qui peuvent être pratiques dans notre jardin privé ?
Ce qu'on utilise principalement, c'est il y a deux, trois types de paillages. C'est par exemple les paillages de miscanthus, les broyats de copeaux, les écorces de pin maritime. Ça, c'est les trois choses qu'on sert le plus au niveau du potager et puis des petits fruits.
Merci Fabrice, on va partir en vacances maintenant.
Ah merci Mylène, c'est vous qui offrez les vacances ?
Oui, bien sûr. On part, des personnes qui partent prochainement en vacances en Asie et ils aimeraient ramener quelques graines du genre du basilic thaï. Pensez-vous que des plantes aromatiques d'Asie pousseront chez nous ?
Alors on en trouve déjà sur le commerce du basilic thaï qui se développe tout aussi bien que notre basilic à nous, avec ces petites valeurs aromatiques un peu différentes qui sont très intéressantes. Donc oui, ça marche.
Et puis par exemple, si cette personne se promène dans des jardins, elle peut glaner quelques graines de ci, de là et les replanter en Suisse, ou c'est une mauvaise idée pour l'écosystème ?
Ben, disons qu'au niveau de l'écosystème, si elle est sûre de ce qu'elle prélève, qu'on n'est pas dans des plantes invasives ou des choses comme ça, donc il n'y a pas de souci. Après, il faut pas ramasser n'importe quoi et puis se renseigner vraiment à ce niveau-là. Donc il ne faut pas avoir des coups de cœur sur des plantes qui peuvent paraître jolies, mais qui peuvent ici poser de gros problèmes, comme on pense notamment à des choses comme la renouée du Japon que peut-être pas tout le monde connaît, mais un grand nombre de personnes connaissent, mais ici, qui sont des vrais fléaux. Donc faire attention à ça, pas ramasser n'importe quoi, se renseigner un petit peu avant.
Mais justement, on a tous cette envie, quand on part en vacances, de ramener des souvenirs ou de ramener des choses. Est-ce que justement, au niveau de la nature, au niveau des plantes, est-ce qu'il y a possibilité de ramener des choses qui peuvent quand même s'acclimater à notre écosystème, à notre météo, qui est quand même passablement fraîche en hiver en Suisse ?
Alors oui, on a des choses parce qu'on a différents types de plantes. On a des plantes qui sont vivaces, des annuelles, des bisannuelles. Donc après, si on travaille sur du basilic, c'est une plante qu'on va travailler sur une saison. Donc on va la semer au printemps, on va la récolter. Et puis en général, à l'automne, elle va dédevenir, elle va mourir. Et puis au printemps suivant, on va redémarrer sur une autre. Si on tombe sur le coup d'une plante comme ça, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il y a, il y a aussi au niveau peut-être légal, faire attention à ne pas ramener n'importe quoi parce qu'on n'a pas le droit... Que ce soit au niveau de la faune et de la flore, il y a une certaine législation qui est en place. Donc c'est pour ça qu'il faut se documenter un petit peu avant et puis pas ramasser que pour le coup de cœur.
Merci Fabrice, on fera attention. L'heure tourne et nous allons devoir bientôt nous quitter. Mais avant cela, nous allons passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. Ce matin, nous avons parlé de graines de tomates, de pieds d'éléphant, de conservation d'ail ou d'oignons, et puis juste maintenant de plantes venues d'ailleurs. Nous sommes le 28 janvier, alors même si la neige nous fait défaut, les températures sont souvent négatives. Fabrice, dites-nous, que faire au jardin ?
Ouais, il faut profiter de par ces terrains qui sont un petit peu gelés, qui sont agréables à marcher, où c'est qu'on ne se salit pas trop. Peut-être de profiter de faire un petit peu des tailles, de ramasser par ces moments-là, et puis de profiter des belles journées encore, parce qu'on a quand même encore quelques semaines devant nous, jusqu'à ce que la saison démarre vraiment. Donc on peut un petit peu distiller ses travaux tranquillement jusqu'à fin mars, et puis... prenons le temps.
C'est un peu la pause pour vous en ce moment.
C'est un petit peu plus tranquille, c'est un petit peu plus tranquille, oui.
Il n'y a aucune urgence et ça tombe bien, finalement, au début d'année, comme ça on est un peu plus tranquille. En tout cas, merci beaucoup Fabrice Rondet de votre présence aujourd'hui. On rappelle que vous avez créé votre entreprise, Fabrice Rondet SARL à Port-Rontruy. On vous souhaite un très bon week-end et on se réjouit de vous retrouver tout bientôt dans Les Jardinières. Merci beaucoup.
Un bon week-end à vous également. Merci
Fabrice, bon week-end. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Tom, le jardinier. Et n'attendez pas samedi pour poser vos questions. Faites-le en tout temps par SMS ou via le formulaire disponible sur nos sites internet. Et puis bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites internet. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end, Raphaël.
Mais à vous aussi et à dans deux semaines pour ma part, Mylène.
Ah bah oui, vous nous lâchez le week-end.
Je vous abandonne un petit week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous.
7h, 8h, Les Jardinières.